Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, dimanche le 28 avril 2019, je vais vous accompagner pendant 60 minutes. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes, tels que la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur, et les informations des chansons. Chers auditeurs, maintenant, on commence par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bienvenue dans le programme Le Journal. Aujourd'hui, on commence par le titre. Les 16 pays animent le Festival de la Marine de Sabang. L'aéroport international de Yogyakarta est sûr pour les vols. Le vice-premier ministre de Thaïlande a rencontré le sultan Hamengkubuwono X. Les réserves d'électricité abondantes, la Société publique d'électricité, ou abrégée en PLN, invite les investisseurs à investir dans l'ouest de Sumatra. Observateur dit que la mesure de rétorsion contre de l'Union européenne sur la discrimination du palmier à huile est la bonne étape. Chers auditeurs, voici le journal complet. Les 16 représentants du pays d'Asie et d'Europe sont arrivés à Sabang, dans la province d'Aceh, pour animer le Festival Marin de Sabang, ou abrégé en SMF, du 26 au 30 avril. Cela a été dit par le chef de la section de la circulation et permis de séjour d'immigration, Saïd Azhar, à Sabang récemment. 24 voilières qui sont arrivées à l'île de Weh, battant pavillon de Malaisie, 8 des États-Unis 3, de France 3, d'Angleterre 2, d'Australie 2, de Belgique 2, de Canada 1, d'Allemagne 1, des Pays-Bas 1 et de Nouvelle-Zélande 1. Le nombre total de passagers d'un voilier est de 52 personnes de 15 pays. Le Festival de la Marine de Sabang 2019 visait à promouvoir les destinations de tourisme maritime, la culture de Sabang et d'Aceh, en général à la communauté des Yah pour augmenter le nombre de visites touristiques étrangères. PT Angkasa Pura 1 a déclaré, selon les résultats de l'évaluation des risques liés au vol, que l'aéroport international de Yogyakarta dans la région de Kulon Progo, Yogyakarta, était sûr pour les vols. Le porte-parole du projet de l'aéroport international de Yogyakarta, Agus Pandu Purnama, à Kulon Progo, a expliqué samedi 27 avril que cette déclaration était le résultat de la dernière réunion de l'évaluation du risque de vol suivi par toutes les compagnies aériennes, à savoir Garuda Group, Lion Air, Sriwijaya, Silk Air et AirAsia, qui a eu lieu le samedi. Selon lui, il y a des contraintes de licence de créneau horaire, mais techniquement, il est terminé. Il est également prêt à être utilisé pour les vols internationaux. Le vice-premier ministre thaïlandais, Wisanu Kreangam, a rencontré récemment le gouverneur de la région spéciale de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, au bureau de Kepatihan à Yogyakarta. Wisanu Kreangam a déclaré que c'était une occasion de renforcer les relations entre la Thaïlande et Yogyakarta. La visite a également été effectuée par Wisanu pour célébrer le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Thaïlande. Selon lui, le modèle des relations fraternelles entre la ville de Chiang Mai en Thaïlande et la ville de Yogyakarta méritait d'être l'un des projets de la célébration de 70 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Thaïlande. Sri Sultan Hamengkubuwono X a déclaré que concernant les 70 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, Yogyakarta enverrait un certain nombre de délégués culturels. Et des artistes thaïlandais pourraient aller à Yogyakarta pour peindre la vie à Yogyakarta. La Société publique d'électricité, ou en indonésien PT PLN, invite les investisseurs à investir dans Sumatra Ouest car les réserves d'électricité disponibles sont suffisantes. Le directeur général de la Société publique d'électricité de l'unité de la région de Sumatra occidentale, Bambang Duyanto, a dit samedi à Padang, dans l'ouest de Sumatra, qu'il avait actuellement une réserve de puissance moyenne de 60 MW. Si on ajoute au transfert d'alimentation en énergie du système de Sumatra du Sud, on estime que la réserve de puissance est encore suffisante pour 200 MW. En outre, il y aura des ajouts d'une puissance supplémentaire de l'exploitation de la centrale géothermique, ou abrégée en PLTP, de Muara Labo, d'une capacité de 80 MW en août 2019. L'observateur économique de l'Institut pour le développement de l'économie et des finances, Eko Listianto, a déclaré que les mesures de rétorsion dans le domaine du commerce entre pays dans le cadre des organisations commerciales mondiales ou les représailles contre l'Union européenne pour discrimination dans le palmier à huile est la bonne décision. Eko Listianto a déclaré ceci dans un communiqué reçu par Antara à Jakarta samedi dernier. Il a expliqué que la politique protectionniste de l'Union européenne visait à protéger les produits à base d'huile végétale de cette région. Par conséquent, malgré les représailles commerciales peuvent causer des pertes aux deux parties, mais sans de tels efforts de résistance, la discrimination faite par l'Union européenne sera plus forte. Eko Listianto a également rappelé l'importance de formuler des mesures de rétorsion, entre autres en choisissant des restrictions sur les produits importés, afin de donner un signal fort à l'Union européenne. Selon lui, ces articles ne doivent pas être des produits de haute technologie, mais peuvent également sous la forme de produits alimentaires et produits de boissons. Chers auditeurs, c'est tout le journal aujourd'hui.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le gouvernement veille à ce que le projet des initiatives de ceinture et des routes utilise des systèmes B2B ». Le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, veille à ce que les projets inclus dans le programme des initiatives de ceinture et des routes mis en place par la Chine utilise le système entreprise à entreprise ou business to business ou abrégé en B2B. Comme la citation d'Antara à Jakarta mercredi dernier, Luhut Binsar Panjaitan a déclaré que la collaboration actuelle n'était pas sous la forme d'une coopération intergouvernementale. C'est la coopération entre les entités commerciales directement sur le projet, donc le rôle du gouvernement est simplement de faciliter. Luhut Binsar Panjaitan a souligné que les projets étaient purement business to business dans lesquels le gouvernement indonésien et chinois facilitait seulement la réunion de chaque entité commerciale des deux pays. Selon lui, le gouvernement mène actuellement une étude de faisabilité avec des investisseurs chinois pour plusieurs projets proposés au sommet de l'initiative des ceintures et des routes. Luhut Panjaitan est arrivé à Beijing mercredi matin pour participer au sommet de l'initiative des ceintures et des routes. Il a accompagné le vice-président Yusuf Kalla lors de la visite. Lors de ce sommet, le gouvernement indonésien souhaitait également mener une étude sur la manière dont la Chine avait construit sa feuille de route industrielle. Dans ce cas, l'Agence nationale de planification du développement, ou en Indonésie, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, abrégé en BAPENAS, sera impliquée afin de ne pas répéter les erreurs commises par d'autres pays dans la construction de leur industrie. L'initiative de ceinture et de route est un projet initié par la Chine visant à tricoter des routes de soie modernes entre pays. Avec ce projet, la Chine a aménagé de nouvelles routes commerciales et relié les zones les plus proches. En plus d'assister à la conférence internationale, Yusuf Kalla devait rencontrer le président chinois Xi Jinping et déjeuner avec le vice-président Wang Qishan. Après la réunion, Youssouf Kala participera également à un certain nombre de dîners et de forums d'affaires. Et il assistera à des performances artistiques organisées par le gouvernement chinois. Au cours de la visite, Udra Luhut Panjaitan, plusieurs ministres ont accompagné Youssouf Kala, parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi, le ministre de la Recherche, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur Mohamed Nasir, ainsi qu'un certain nombre de fonctionnaires du vice-président. Youssouf Kala va rentrer à Jakarta le 28 avril. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 28 avril. On commence par le 28 avril 1949, la mort de Khairil Anwar. Khairil Anwar est mort le 28 avril 1949. Il était jeune poète indonésien célèbre. Khairil Anwar avec Asrul Sani et Rivai Apin ont été désignés par le critique littéraire H.B. Jassin comme pionnier de l'écrivain indonésien de 1945 et pionnier de la poésie indonésienne moderne. Au cours de sa vie, Khairil a écrit environ 94 œuvres, y compris 70 poèmes. Le dernier poème de Khairil Anwar, intitulé Cemara Menderai Sampai Jauh, a été écrit en 1949. Son œuvre la plus célèbre, dont les titres sont Aku et Karawang Bekasi. Le 28 avril 1952, la signature de l'accord de paix entre la Chine et le Japon. L'accord de paix sino-japonais est un accord de paix entre le Japon et la République de Chine, signé à Taipei, Taïwan, le 28 avril 1952 et entré en figure le 5 août de la même année. Cet accord a officiellement marqué la fin de la guerre sino-japonaise de 1937 à 1945. Sous la pression des États-Unis, le Japon a signé un accord de paix séparé avec la République de Chine, mettant ainsi fin officiellement à une guerre entre les deux pays, dont la victoire est à la Chine. L'accord de Taipei a été annulé unilatéralement par le gouvernement japonais le 29 septembre 1972. En plus, le 28 avril 1989, le jour international des travailleurs. Le jour de la commémoration des travailleurs, ou le jour international des travailleurs, a lieu chaque année dans le monde le 28 avril. Il s'agit d'une journée internationale pour commémorer et agir pour les travailleurs tués, handicapés, blessés ou rendus malsains par leur travail. Le jour de la commémoration des travailleurs est une occasion de souligner la prévention de nombreux incidents de travail et de mauvaise santé et de promouvoir les campagnes et les organisations syndicales dans la lutte pour l'amélioration de la sécurité sur le lieu de travail. Depuis des années, des événements pour les travailleurs ont été commémorés en Amérique du Nord et plus tard dans le monde entier. Depuis 1989, des syndicats d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Europe et d'Afrique ont organisé des manifestations le 28 avril. Chers auditeurs, c'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Ku hampiri engkau meski kau jauh. Sendiri ku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Ku hampiri engkau meski kau jauh. Namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hatiku yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu.
Voilà Yura avec sa chanson dont le titre est Intuisi ou en français l'intuition. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Pour la rubrique suivante, écoutons Mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Voici Mon Indonésie intitulée La réunion des membres de CONI sur la préparation des ponts et la ratification de 4 sports. Lors d'une réunion des membres du Comité national indonésien de sport, en indonésien Comité Olahraga Nasional Indonesia, ou abrégé en CONI, qui s'est déroulée mercredi 25 avril à Jakarta, tous les membres et administrateurs de CONI ont approuvé l'inscription de 4 sports à l'adhésion. Les 4 sports approuvés sont le sambo, le courage, le kickboxing et le hapkido. Avant d'être légalisés, tous ont été déclarés avoir passé l'administration. L'un d'entre eux, c'est il doit avoir 19 directeurs de succursales dans toute l'Indonésie. Sambo compte actuellement 19 directeurs de succursales de PP per Sambi. Outre la ratification des nouveaux membres, cette simple assemblée annuelle a également abouti à plusieurs décisions, notamment la nomination de Edi T. Hendratno à la présidence du Conseil d'arbitrage sportif de la République d'Indonésie, ou abrégé en Baori, dont les membres sont Ahmad Mulyadi et Adi Sujatno. Lors de cette réunion, le conseil exécutif de la Semaine nationale du sport de Papua, ou en indonésien, Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional, abrégé en PB PON 2020, Yunus Wonda, a expliqué la préparation du plus grand championnat sportif du pays. L'animateur a déclaré toutes les préparations en fonction des étapes. Lors de l'assemblée annuelle à laquelle ont assisté la majorité des membres, on parle aussi du projet d'élire à nouveau après la fin du mandat de Tono Suratman à la fin de cette année. Tandis que les propositions des sports, notamment e-sport, surf et orienteering, qui se sont portés volontaires pour devenir membres de CONI, sont toujours en cours d'examen. Cette évaluation est effectuée en raison des exigences qui n'ont pas été remplies. Tono Suratman, président de CONI, a déclaré jeudi, dans sa déclaration officielle à Jakarta jeudi dernier, que, pour devenir membre de CONI, il est nécessaire de satisfaire à des exigences administratives, comme il doit avoir au moins 17 administrateurs provinciaux. Alors que le sport électronique, une nouvelle branche est privilégiée par les jeunes, retient maintenant l'attention du ministère de la Jeunesse et des Sports en organisant pour la première fois à Jakarta la formation et la certification des arbitres nationaux en sport électronique du 24 au 29 avril 2019. Les activités organisées par l'assistant adjoint de l'augmentation de la force sportive et organisationnelle du ministère de la Jeunesse et des Sports ont réuni des représentants de 12 provinces d'Indonésie. Voilà mon Indonésie aujourd'hui.
Selalu ada bayangmu, ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi? Selalu ada bayangmu, ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke pasti akan ku nanti, meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.
pastiku kan menunggu.
Walau ke ujung dunia,
pasti akan ku nanti.
Meski ke tujuh samudra,
pastiku kan menunggu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Vous venez d'écouter la chanson de Krisha intitulée Untuku ou en français pour moi. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'onde courte de 3,3 à 5 kHz et vous pouvez écouter notre émission au site de www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, voici la rubrique du magazine culturel. Cette fois-ci, je vous invite à Mojokerto pour visiter l'une des destinations touristiques les plus populaires de Java de l'Est, à savoir la statue de Bouddha endormi. La statue de Bouddha à Mojokerto mesure 22 mètres de long sur 6 mètres de large et atteint une hauteur de 4,5 mètres. La statue de Bouddha endormi est située au village de Bejijong, district de Trawulan, Mojokerto, Java de l'Est. Pour arriver à cet endroit, vous pouvez aller à Jombang. Après avoir traversé le carrefour de Trawulan, allez tout droit jusqu'à ce que vous trouviez le bureau de district de Trawulan à gauche de la route. Ensuite, suivez les instructions pour arriver à la statue du Bouddha endormi. Le Bouddha endormi à Mojokerto est recouvert d'une peinture dorée qui symbolise la mort de Siddhartha Gautama. Cette statue est construite face à la principale Qibla bouddhiste au sud. La statue de grande taille a été enregistrée par Muri comme la plus grande statue de Bouddha endormi en Indonésie, même si c'est la troisième plus grande statue de l'ASEAN. Ce sera très agréable de passer de vacances à ce lieu touristique des statues Bouddha endormi à Mojokerto, car ici est très calme. Les visiteurs peuvent également profiter de la beauté des bâtiments du monastère. Autour de la statue de Bouddha est entouré d'un étang contenant des centaines de poissons koi et de lotus qui attirent l'attention des visiteurs. En outre, il y a aussi diverses statues et miniatures de temples de Borobudur à l'intérieur du temple qui sont utilisées pour les prières bouddhistes. Sur le mur arrière du bâtiment principal, il y a également de grands reliefs qui racontent du Bouddha Gautama. Bien que ce monastère fonctionne comme un lieu de culte, rien n'interdit aux autres visiteurs religieux d'entrer dans ce temple à condition qu'il ne soit pas bruyant. Dans ce lieu touristique, vous allez trouver également des magasins proposant des accessoires typiques bouddhistes, de grands parkings et des vendeurs de produits alimentaires proposant différents types de plats culinaires de Java de l'Est. Prix de billet d'entrée à la zone touristique de statue de Bouddha endormi de Mojokerto est seulement 3000 rupiah pour les adultes et 2000 rupiah pour les enfants, alors que les frais de stationnement pour les motos sont 2000 rupiah et pour les voitures 5000 rupiah. Chers auditeurs, si vous allez à cet endroit avant le jour de Vesak, vous pourrez regarder le rituel de la purification de la statue du Bouddha endormi qui débutera par une prière commune. Voici le magazine culturel de Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, kan ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Adakah di sana kau rindu padaku, kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana.
Voilà la chanson de Chris Patti, dont le titre est « Mengenangmu » ou en français « Se souvient de toi ». Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Écoutez notre émission à l'onde courte de 3,3-5 kHz ou à site de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde, voici l'Indonésie en couleur. Cette édition va parler de Jardin botanique de Bogor, présentera des dizaines de nouveaux types de plants. Chers auditeurs, le Jardin botanique de Bogor, ou en indonésien Kebon Raya Bogor, est un paradis de plantes variées et constitue le plus ancien jardin botanique d'Asie du Sud-Est. Le jardin botanique situé à la ville de Bogor, Java de l'Ouest, couvre une superficie de 87 hectares et compte environ 15 000 types de collection d'arbres et de plantes. En plus d'être un lieu de conservation et d'éducation, le jardin botanique de Bogor, géré par l'Institut indonésien des sciences ou en indonésien LIPI, sont également l'une des attractions touristiques les plus visitées. Chers auditeurs, le jeudi 25 avril 2019, le Jardin botanique de Bogor a présenté des dizaines de nouvelles espèces de plantes. L'exposition a eu lieu lors de la tournée de presse. Il existe trois nouveaux types de plantes, ce sont Bégonia, Kemuning et Oya. Hendrian, responsable par intérim du Centre de conservation de plantes et de jardins botaniques de l'Institut indonésien des sciences ou en indonésien LIPI, a déclaré que la divulgation de nouvelles espèces de plantes avait une contribution importante à la conservation des plantes et fournissait une nouvelle compréhension de la diversité des espèces de plantes indonésiennes et de leurs ressources. Selon lui, la mise en œuvre des fonctions de recherche et de conservation continue à être renforcée, en plus de prêter attention à d'autres tâches conformément au règlement présidentiel numéro 93 de 2011 sur le jardin botanique. Chers auditeurs, dans cette activité, on a présenté 32 nouveaux types de bégonia, espèces de plantes à fleurs de bégoniacées, le résultat d'expéditions et de recherches menées au cours des 10 dernières années. Selon lui, l'Indonésie compterait plus de 400 bégonias sur un total de 1924 espèces trouvées aux régions tropicales du monde. Type de Kemuning muraya cyclopensis est un autre nouveau type exposé. Enfin, la découverte des plantes Oya concerne 10 espèces. Oya est une pigne. En tant que plante ornementale, les Oya sont généralement plantées dans des pots suspendus. Pour ce type de plante, l'étude a été réalisée de 2014 à 2019. Les participants à la tournée de presse ont également visité l'herbier du Jardin botanique de Bogor, qui a recueilli 50 000 spécimens de plantes conservées, principalement sous forme sèche. Chers auditeurs, c'est tout l'Indonésie en couleur.
Matahari sudah di penghujung petang. Ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari, aku berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi. Kau pun tak lagi kembali. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Monita Tahalea intitulée « Memulai kembali » qui signifie « Recommencer ». Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Cette fois-ci, je vais vous présenter la chanson de pop d'Indonésie.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia avec le magazine musical. Cette fois, je vais vous présenter la chanson de pop chantée par Arman Maulana. Arman Maulana a débuté sa carrière en tant que finaliste dans un magazine en Indonésie. Après cela, il a exploré l'industrie de la musique indonésienne. Son nom a commencé à être célèbre depuis qu'il est devenu un chanteur du groupe de Gigi. Bien que toujours dans le groupe Gigi, il a également une carrière solo. Au début d'avril 2019, Arman Maulana a publié une chanson intitulée « Bawa Daku Pergi » qui est une chanson des années 1990 popularisée par l'une des divas indonésiennes s'appelle Ruth Sahanaya. La chanson créée par Putut Mahendra a été produite et réarrangée par DJ malaisien s'appelle Tatsuro Miller. Bon, chers auditeurs, écoutons la chanson « Bawa Daku Pergi » ou en français, Emmène-moi, chanté par Arman Maulana.
Kau kembali bawa aku
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Cari
Of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. C'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Écoutons toujours notre émission à l'onde courte de 33 de 5 kHz ou au site de www.voinews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir. Thank you.